Bienvenue au quatrième épisode de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, où nous interviewons des scientifiques canadiens réputés pour parler de leur carrière, leur recherche et bien sûr leur passion pour l'épigénétique. Cette semaine, Ariane Lismer et moi-même, Benjamin Lebeau, interviewons Dr. Serge McGrath, affilié à l'Université de Montréal pour une discussion sur l'épigénétique et le développement embryonnaire.
Bonjour Serge, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui.
Merci, bonjour à vous deux.
Donc, une question qu'on aime commencer avec, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à commencer en sciences et comment est-ce que vous vous êtes rendu où vous êtes maintenant?
Parfait. Donc, moi, mon background est un peu différent. J'ai débuté en voulant être physiothérapeute. Donc, premièrement, je viens du Nouveau-Brunswick, où est-ce que pour aller dans un cours de médecine ou autre, il faut aller à l'université pour faire un cours un peu plus général qu'on appelle le diplôme en sciences santé. Donc, j'avais fait un cours, en réalité, c'est un cours universitaire de 2 ans qui est vraiment une base de tous les cours en santé, mathématiques, physique. Donc, j'étais là-dedans pendant 2 ans et après avoir fini ce cours-là, ensuite, j'ai appliqué en physiothérapie, j'ai pas été admis. Donc, mon deuxième choix était biochimie et je suis rentré en biochimie à l'Université Laval à Québec. Et donc, à partir de là, j'étais un peu déçu au début, mais par contre, ça n'a pas pris de temps que j'étais très, très content parce que je me voyais beaucoup plus dans un labo qu'en train de traiter des patients. Donc, c'est de même, ça a débuté. Donc, mes premières années, j'étais juste un étudiant au bac, un peu comme tout le monde. Et les étés, je travaillais dans une mine. Et j'étais un mineur, je travaillais sous la terre tous les étés. Et lors de ma dernière, ou peut-être à moitié chemin dans mon cursus de bac, j'ai un ami qui travaille dans un labo en sciences animales et il a réussi à me faire entrer. Et c'est vraiment après avoir travaillé dans un labo pendant un été de temps que j'ai vraiment eu la piqûre pour... Et c'est là que j'ai décidé que j'allais faire une maîtrise. Parce qu'au début, je pensais qu'avec un bac, on allait avoir une job incroyable. Donc, ça, c'était la première petite portion, là, la voie que je me suis dirigé en biochimie.
Donc, c'est quoi que vous aimiez le plus dans le travail en labo comparé au travail avec les patients? C'est comment vous avez eu cette piqûre-là?
Je pense que c'était vraiment faire le benchwork, là, faire les expériences. Mm-hmm. C'était vraiment... J'étais quelqu'un, quand j'étais plus jeune, qui adorait faire des choses avec les mains, tu sais, qui était toujours en train de faire des expériences à la maison et que ce soit faire des petits volcans là, avec du vinaigre et du soda ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que je retrouvais un peu la magie là, que je trouvais qu'il y avait en science. Et là, lorsque j'ai vraiment été travailler dans un labo, parce que, comme vous le savez, au bac, on apprend des choses, mais souvent, c'est des choses qui sont toutes faites pour nous. Là, on sait que l'expérience va fonctionner 100%. Et quand on tombe dans un vrai labo, là, c'est vraiment là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, les expériences. Donc, c'est ça. J'ai débuté dans un labo où est-ce que je travaillais avec la docteure Janice Bailey. C'était ma première job dans un labo. J'ai travaillé là, je pense, un été. Et ensuite, peut-être pendant un semestre avec elle, je travaillais sur le spermato. Par la suite, elle partageait un labo avec le docteur Marc-André Sirard, qui est aussi là-bas à l'Université Laval. J'ai commencé à travailler pour lui à temps partiel durant le semestre. J'allais à l'abattoir chercher des ovaires. Je faisais tous les petits jobs là, possibles, là, peu importe, parce que j'avais des notes qui étaient moyennes, je dirais, à l'école. Donc, ça me prenait beaucoup d'expérience pour booster mon CV, là, pour me trouver une maîtrise. Et finalement, le docteur Sirard m'a donné un poste de maîtrise et j'ai fait ma maîtrise avec lui et mon PhD. C'était une super expérience. J'avais vraiment le choix de faire qu'est-ce que je voulais et j'avais une supervision qui était, je dirais, un peu plus lousse où est-ce qu'on avait une certaine directive et à travers cette directive ou à travers ces projets, mais on pouvait vraiment faire qu'est-ce qu'on voulait. Et ça m'a permis justement de me planter plusieurs fois et d'avoir quelques succès. Donc, ces différentes fois-là quand on se plante, mais en réalité, c'est vraiment là qu'on apprend beaucoup. Là. Et j'ai appris beaucoup et j'ai sorti avec un PhD assez bien, même très bien, je dirais. Et à partir de là, mais j'ai été faire un postdoc. J'avais le choix en différents endroits à travers le monde. J'avais eu différentes offres. Par contre, j'avais déjà eu mon premier enfant et je ne sais pas, on a décidé d'aller un peu vers la famille. J'ai décidé de rester au Québec, même si toutes les personnes avec qui j'avais discuté m'ont dit de ne pas faire ça. Parce que si je restais au Québec, même au Canada, que mes chances d'avoir un poste allaient être très limitées. Fallait vraiment que je m'en aille à l'extérieur. Et comme d'habitude, je n'ai pas écouté personne et j'ai décidé de rester. Puis finalement, les endroits où est-ce que, après mon postdoc, où est-ce que j'ai eu des offres étaient toutes au Québec. Et donc, pour moi, ça a été parfait. Là.
Donc, qu'est-ce qui vous avait choisi le laboratoire de postdoc de Jacquetta Trasler?
Une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller là, donc j'étais dans un modèle animal avant qui était le bovin, beaucoup, et le porc un peu, mais surtout le bovin. Je voulais aller travailler avec une souris. Et je voulais jouer avec la génétique. Dans son labo, il possédait une souris DLMT1-0, donc l'enzyme qui rajoute la méthylation, mais ovule spécifique, donc une enzyme produite par l'ovule et qui est seulement utilisée au niveau de l'embryon 8 cellules. Et moi, c'est vraiment une période qui m'intéressait. C'était vraiment parce que pendant tout mon PhD, j'ai vraiment travaillé sur la préimplantation, donc de l'ovocyte jusqu'au blastocyste. On avait identifier différents facteurs épigénétiques qui étaient exprimés, le niveau d'expression et ce genre de choses chez le bovin. Mais donc, on était beaucoup limité, que ce soit avec les anticorps, que ce soit avec les modèles génétiques. Chez le bovin, il n'y en avait pas dans le temps, il n'y en a presque pas maintenant. Donc, je voulais aller avec un modèle de souris qui me permettrait d'aller beaucoup plus loin au côté mécanistique, ce qui n'était pas vraiment faisable là, dans le temps au niveau chez le bovin. Et je voulais aussi avoir un différent aspect qui était peut-être un peu plus aussi relié à la santé pour me donner un autre cadre. Là. J'avais fait tout le côté développement qui était beaucoup plus animal. Et là, pour ma carrière future, je me voyais plutôt aller dans un côté qui était, oui, toujours un côté fondamental, mais j'aime pas dire fondamental, j'aime mieux dire discovery, un milieu de recherche où est-ce qu'on fait de la découverte. Mais je voulais aussi aller avec un modèle qui est un petit peu plus vers la santé. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi d'aller pour la science avec le Dr. Trasler, pour le financement aussi, parce que vivre dans un autre pays avec un bébé, avec des garderies, ces choses-là, c'était assez fou. Et au Québec, mais on avait quand même un environnement qui était super supporteur là, en tant que postdoc. Fait que c'est une des raisons que j'ai resté.
Donc, est-ce que c'est un mythe que quand on fait son postdoc au Québec, c'est plus dur de se trouver un lab ici ensuite?
C'était un mythe qui était avant. Moi, je pense qu'en réalité, ce qui passe, c'est ton CV. L'importance aussi d'aller, que ce soit lorsque j'étais chez Dr. Sirard ou quand j'étais chez Dr. Trasler, des choses que j'ai faites, c'est des stages à l'extérieur. Quand j'étais à Québec, j'ai fait des petits stages, que ce soit à Montréal, mais tu sais, je suis venu dans le labo à Dr. Vessio-Bordignon à McGill. Donc, j'ai fait quelques stages dans ce labo-là. J'ai connu d'autres labos. Lorsque j'étais chez Dr. Trasler, j'ai fait un stage d'un mois et demi en Allemagne, dans le laboratoire à Christopher Place. Fait que, j'ai été pendant un mois et demi parti là-bas à faire des expériences full-time. J'ai été aussi dans le laboratoire à Dr. Richard Challet à Pittsburgh. Donc, oui, je suis resté à Montréal. Par contre, j'ai vraiment mis l'emphase sur aller faire des stages à l'extérieur et aussi aller dans des meetings à l'extérieur pour justement un peu comme agrandir mon network.
Et comment est-ce que vous vous êtes pris pour avoir des stages internationaux? Est-ce que vous avez juste envoyé un email? Vous aviez des connexions?
J'avais des connexions, par exemple, à Pittsburgh avec Richard Challet. Qu'est-ce que j'ai été apprendre là-bas? C'est vraiment la culture d'embryonic stem cell, donc les cellules souches embryonnaires de souris. Ça, c'est quelque chose que je voulais développer dans mon labo. J'avais déjà une petite collaboration avec lui à travers le Dr. Trasler, parce qu'elle et Dr. Challet avaient quand même plusieurs années de collaboration ensemble. Donc, j'avais commencé une collabo de mon côté avec eux à regarder la méthylation dans certains de ces modèles de cellules souches. Et comme c'est un modèle que je voulais développer dans mon labo, donc je l'ai contacté, puis vu que c'est quelqu'un que je connaissais, c'était facile. Donc j'ai été là-bas pendant peut-être 2 semaines, je dirais, prendre la fête de la culture. Et avec Christophe Place, c'était un ancien PhD qui était dans le docteur à Jacquetta Trasler, donc qui était parti faire un postdoc là-bas. Donc, c'est à travers lui. C'était super simple. Il a demandé, puis il a dit oui. Fait que j'ai appliqué pour un Visiting Scientist Award que j'ai reçu. Et j'étais vivre là-bas. Et ça a été vraiment eye-opening. Là. C'était des labos qui étaient presque uniquement composés de PhD, excuse-moi, de postdoc. Et chaque postdoc avait comme leur PhD, qui était un peu leur petit esclave. Et c'était comme un peu une ruche, là. Ça buzzait à force qu'il y avait, tu sais, mais c'était vraiment... Et j'étais là-bas, ça m'a permis de finir deux papiers, aussi une collaboration avec quelqu'un dans le labo. Et ça finit mon postdoc en beauté. Et par la suite, après ça, c'est là que j'ai commencé à appliquer pour des postes. Mais même pendant mon postdoc, oui, il y a eu ces stages-là, mais c'est vraiment l'importance. J'allais dans des meetings internationaux. J'allais chercher des gens importants. Je les apportais à mon poster. Je lui disais que je donnais un talk. Je lui demandais de venir voir mon talk. Je regardais les gens qui, par exemple, qui fument. Pendant les pauses, je les spottais et pendant les pauses, je savais qu'elle allait fumer une cigarette dehors. Donc, j'allais les voir pour avoir 5 ou 10 minutes avec eux où est-ce qu'il n'y avait personne. Donc, j'étais vraiment proactif là. Et c'était la même chose au Québec. Même si j'ai resté ici, je pense que je participais beaucoup localement. Fait que les gens me connaissaient. J'avais déjà, je pense, une expertise, une réputation qui était bien vue. Donc, pour moi, ça n'a pas été un problème là, de rester au Québec.
Et est-ce que ce réseau-là vous aide encore aujourd'hui?
Certains, oui, certains vont m'aider. Par exemple, des gens que j'ai rencontrés dans les meetings, que veux pas, on se voit encore dans les meetings. Et parfois, par exemple, tu vois, que ce soit des lignées de cellules ou que ce soit de l'information, des fois sur des choses, je dirais pas privilégiées, mais tu sais, c'est facile de prendre, envoyer un courriel et pour demander l'information. Et lorsqu'on se voit dans les meetings, c'est toujours comme un peu... la science, ça reste une grande famille. Là. Donc, lorsqu'on se voit dans les meetings, même si ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gens sont tout le temps heureux de te voir. Puis, aussi, ça aide, c'est ce genre de contact-là. Lorsque les gens qui sont dans ton domaine, lorsqu'ils t'apprennent à te connaître, sont des amis proches, mais c'est des gens qui peut-être aussi qui vont réviser tes papiers. Donc, c'est des gens qui vont, lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, bien sûr, mais ça reste que ça permet les gens aussi de mieux apprendre à te connaître, à mieux apprendre à connaître ta recherche. Et lorsque, par exemple, lorsque j'écris à ces personnes-là, que ce soit pour nous donner un talk dans notre série de séminaires en épigénétique ou même lorsque je participe dans des meetings, mais c'est facile là, d'approcher ces gens-là pour leur demander, parce qu'on se connaît d'une certaine façon.
Est-ce que ça, c'est un des aspects que vous aimez le plus de la recherche en sciences?
Exactement. Autant qu'il y a des gens qui détestent que lorsqu'ils sont dans des meetings, qu'ils restent dans leur chambre, dans les coffee breaks, qu'ils s'en vont, autant que moi, c'est j'adore ça. Maîtrise et PhD, c'est un peu plus difficile. Tu sais, lorsqu'on va dans des meetings, on connaît moins les gens. Par contre, lorsque j'étais avec le docteur Sirard, lorsqu'on allait dans les meetings, si j'étais proche de lui et il y avait quelqu'un qui me présentait, ça a été la même affaire pour Dr. Trasler. Mais au fur et à mesure que je développais ma propre carrière scientifique, là, c'est quelque chose que j'avais pas peur de faire et que même à cette heure, lorsque je vais dans un meeting, si je vois une personne que je connais, que je connais pas par contre, mais que je connais scientifiquement, je vais aller la voir puis je vais discuter de science avec, puis c'est quelque chose qui me dérange zéro. Là. Et maintenant, je fais la même chose lorsque si j'ai un étudiant avec moi ou j'essaie de le présenter pour qu'ils commencent à développer ce genre de choses-là. Parce que c'est un aspect qui est très important là, parce que c'est difficile maintenant. On n'est plus comme on était peut-être dans les années, même début 80, 90 ou même 60. La science est tellement internationale, c'est tellement important d'avoir ces connexions-là. On ne peut pas faire de la science tout seul dans notre coin, c'est plus possible.
C'est tellement spécialisé maintenant qu'on a besoin des expertises de partout.
Tout à fait.
Et donc, à part la science, est-ce que vous avez d'autres passe-temps que vous faites durant votre temps libre?
Oui, j'ai des passe-temps, j'en ai plusieurs quand j'ai le temps. La pandémie a aidé un peu là, sur certaines choses, là, parce que des passe-temps que j'ai beaucoup, c'est vraiment du camping et faire maintenant du hiking. Mais pendant la pandémie, ça a pris un peu un background. Là, cet effet mis en pause parce qu'on ne pouvait pas vraiment se déplacer. Et pendant la pandémie, je me suis acheté une maison. Donc, j'ai fait beaucoup de réno. Donc, une des choses que je m'étais promis lorsque j'allais avoir ma maison, c'est d'avoir un atelier. Donc, j'ai un atelier et je fais tous mes rénaux dans ma maison, que ce soit les planchers, que ce soit changer, refaire les murs, refaire la salle de bain. Pendant la dernière année, là, j'ai fait des rénaux d'électricité, toutes sortes de choses là, dans ma maison. Donc, ça fait un an là, que je fais ça et j'adore ça. Et la chose que dans ce genre de choses-là que j'adore, c'est je trouve qu'il est gratifiant comparativement à plusieurs choses qu'on fait dans notre travail, c'est on a un résultat tout de suite. Et même quand le résultat n'est pas parfait, c'est quand même très satisfaisant. Ou est-ce que lorsqu'on fait une expérience, ça peut prendre, surtout si on fait des expériences de séquençage, ça peut prendre des mois et des mois et des fois des mois avant qu'on ait des résultats finaux. Ou est-ce que lorsque je refais mon plancher, souvent à la fin du week-end, mon plancher il est fait et tout le monde qui vient chez nous dit qu'il est beau. Donc, ça, c'est très gratifiant. Ou est-ce que lorsqu'on écrit un grant et qu'on se passe des mois à écrire et on soumet et que ça arrive et qu'on est outranké ou qu'on est une place d'un spot d'être financé, des fois, ça peut être très difficile. L'important de revenir et d'être persévérant parce que c'est une des premières caractéristiques d'un chercheur, c'est la persévérance avant tout le reste, je dirais. Donc, ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup. J'en fais un peu moins maintenant, mais je fais beaucoup de mécanique aussi. J'ai un Jeep là, où est-ce que j'ai tout changé, la suspension, travaillé sur le moteur, refait les freins. Et j'ai travaillé quelques années passées, là, un bon 2-3 semaines là, à tout refaire au complet dessus pour aller prendre la première randonnée avec et le renverser sur le toit dans ma première drive. Fait que, ouais, donc, ça a été ça, c'était un peu moins gratifiant, mais bon. Mais bon, donc, je suis vraiment hands-on. Tu sais, je suis vraiment... j'adore ça. Tu vois, hier, j'ai pris congé pour la fête du Canada, puis j'ai travaillé dans mon atelier à faire un système un peu différent parce qu'on a un système de pompe à vide dans le labo et je voulais faire quelque chose un peu plus performant, un peu plus beau. Donc, j'ai travaillé sur un système de pompe à vide là, je vais installer ça dans le labo bientôt. Donc, je fais beaucoup de... Ouais, je fais beaucoup de choses là, avec... Pour me changer un peu les idées, c'est bien, ça change les idées. Souvent, je fais ça, j'adore la musique, donc j'écoute beaucoup d'heavy metal, donc je mets du heavy. Je travaille dans mon garage toute seule, un peu la façon de décrocher. Et le camping et la randonnée, c'est un peu la même chose. Hein? Ouais. Être dans la nature, c'est probablement une des seules choses qui me permet de décrocher. C'est rare là, que je décroche, je pense toujours à mon travail. Mais de faire de la randonnée et du camping, c'est une des seules choses qui me fait décrocher.
Est-ce que vous avez des endroits préférés au Canada pour faire du camping?
Au Canada, en réalité, on a fait beaucoup plus de camping au Québec en termes de dans les parcs au Québec, vraiment à travers. On avait commencé à en faire juste avant la pandémie. On allait dans les White Mountains aux États-Unis. Mais là, avec la pandémie, on ne peut pas aller. On fait du camping aussi. J'ai un terrain au Nouveau-Brunswick, sur le bord de l'eau. Je m'en vais là dans 2 semaines. Là, on va s'en aller on va s'en aller faire du camping là-bas, sur le bord de l'eau. Puis juste en avant du terrain, il y a des huîtres. Donc, à tous les soirs, on fait un feu, on mange des huîtres. On boit du champagne en mangeant des huîtres sur le bord du feu. Donc, c'est ma pause par année là, où est-ce que je décroche, là, où est-ce qu'on enjoy la vie un peu.
Oui, c'est important.
Ouais.
Ce moment-là aussi, c'était notre pause de science, mais là, il faudra retourner aller en parler. Dans vos recherches, vous travaillez beaucoup sur la méthylation pendant le développement et vous travaillez aussi sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu aussi?
Oui. Nous, on est vraiment spécialisés sur la période de préimplantation.
Oui, c'est quoi cette période-là, la période de pré-implantation?
L'implantation, c'est vraiment avant que l'embryon s'implante. Donc, c'est à partir dès que l'ovule est fécondé jusqu'au stade de blastocyste. Donc, chez l'humain, c'est environ 7 à 10 jours, là, dépendamment. Et chez la souris, là, c'est 3,5 jours. Donc, les divisions sont beaucoup plus rapides là, chez la souris. Donc, nous, pendant cette période-là, il y a vraiment une vague de reprogrammation où est-ce que les profils de méthylation d'ADN sont presque tout effacés. Et lorsque l'embryon s'implante, tu as une partie, le trophectoderme qui va faire le placenta, et tu as la masse embryonnaire qui va faire l'embryon. Et là, ben, ils sont reméthylés, les profils de méthylation sont redistribués. certaines catégories de gènes, comme des gènes empreintes, qui, eux, qui doivent être maintenus, il faut absolument que la méthylation soit maintenue pendant cette période-là. Donc, nous, on utilise vraiment les transitions de méthylation, mais il y a des transitions au niveau des modifications d'histone. Mm-hmm. Il y a certains facteurs de transcription qui vont être aussi qui vont être exprimés. Donc, nous, le laboratoire focus sur cette période-là et l'aspect de ne pas reméthyler de façon correcte. Donc, soit que lors de la période de reméthylation, ça ne se fait pas correctement, ou bien certaines régions qui doivent maintenir une méthylation correcte, donc ne peuvent pas garder cette méthylation constante. Donc, on étudie ça aux différents modèles, donc avec des cellules souches embryonnaires, donc avec des cellules souches où est-ce qu'on est capable d'arrêter la méthylation et on remet la méthylation, et là, on regarde des régions qui ne sont pas capables. Et l'autre modèle, comme tu as mentionné, Benjamin, c'est le modèle du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Donc, c'est un syndrome qui est causé par la consommation d'alcool pendant la gestation. Donc, le syndrome, en réalité, ne concerne pas seulement la préimplantation, c'est vraiment du début jusqu'à la fin de la grossesse, de la fin de la gestation. Par contre, comparativement à un syndrome génétique, par exemple, dépendamment quand la consommation d'alcool va avoir lieu, on va avoir des aspects qui peuvent être complètement différents ou des symptômes différents. Parce que, par exemple, l'alcool peut être tératogénique, donc peut tuer directement des cellules, peut être neurotoxique, mais aussi l'alcool peut jouer sur, que ce soit l'absorption de l'acide folique, qui a un rôle important à jouer pour la méthylation d'ADN, peut aussi inhiber certaines enzymes comme les DNMT qui vont venir ajouter la méthylation d'ADN. Donc, dépendamment à quel endroit et à quelle période de gestation, comme par exemple, si le bébé est vraiment plus tard dans la gestation, là, le cerveau est en développement. Donc là, on peut avoir un atteinte directement au cerveau, donc directement sur les cellules du cerveau. C'est neurotoxique et ça peut affecter directement les neurones. Nous, la période qu'on se concentre dessus est vraiment la période préimplantatoire. C'est venu à partir d'une discussion qu'on a eue avec des cliniciens. Je parlais de mon intérêt pour l'alcoolémie fœtale et eux, ils me disaient que pendant la première semaine, deux semaines de gestation chez la femme, que l'alcool n'avait pas d'effet. Donc, c'était ce qu'on appelle un all or nothing. Donc, c'est tout ou rien. Donc, ce qui veut dire qu'une femme qui aurait consommé ou qui consommerait de l'alcool pendant cette période, il n'y aurait aucun impact sur l'embryon ou bien l'embryon allait simplement mourir. Donc, il y aurait à avoir comme un avortement. Donc, moi, avec nos travaux, ma réflexion était non, on peut avoir une atteinte au niveau de l'épigénome qui pourrait se traduire par des symptômes qui seraient plus tard.
Et cette période-là, c'est pendant les premières semaines. Donc, les femmes ne sont pas nécessairement au courant qu'elles sont enceintes.
Tout à fait. Même une femme qui essaie d'être enceinte ne le saura pas parce que les tests hormonaux qui sont pas assez sensibles. Donc, c'est une période où que les gens ou les femmes qui veulent pas nécessairement, parce qu'on doit se rappeler que 40% des femmes qui deviennent enceintes, c'était pas planifié. Donc, c'est parce que des fois, c'est des accidents, des fois, c'est des gens qui, des couples qui s'essayent sur une longue période et donc, tu sais, ils savent pas. Et aussi, ce qu'on appelle la misinformation, que tant qu'on n'est pas enceinte jusqu'à un certain point, donc que ça ne cause pas de dommages à l'embryon. Donc, c'est une période qui est très, 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 qui est très sensible, mais c'est une période qui est prône à avoir une femme qui prend de l'alcool parce qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte ou elle pense que ce n'est pas dommageable pour l'embryon. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a commencé nos études là-dessus. Et le modèle qu'on a au labo, c'est un modèle de souris parce qu'il faut qu'on travaille sur un modèle. On pourrait le faire sur des cellules, mais c'est toujours le modèle souris, ça prête bien ça. Il y a des gens qui travaillent sur le poisson, il y a des gens qui travaillent sur le poussin. Okay. Bref, donc nous, on vise vraiment une exposition d'alcool pendant un temps, donc en embryon 8 cellules. Donc, une période qu'on sait chez la souris qui est importante pour maintenir les profils de méthylation d'ADN. Donc, on cause un impact avec l'alcool, avec ce qu'on appelle un binge exposure, donc un niveau qui est élevé, mais un niveau qui est physiologiquement retrouvé chez l'humain. Et ensuite, ce qu'on fait, on récupère les embryons à différents time points, à différents temps, et on fait des analyses, que ce soit épigénétiques au niveau du cerveau, avec la méthylation d'ADN, transcriptomique. On fait aussi des tests cognitifs sur les bébés qui vont naître. On fait également certains types de neurones avec des marqueurs GFP. Donc, on a des souris qui sont en GFP pour certains types d'interneurones. Et là, on peut voir que ça cause des problèmes au niveau de la migration de certains interneurones. On fait des sections de cerveau avec des immunohistos pour voir justement le réarrangement des cellules du cerveau. Donc, on a un aspect, un grand aspect épigénétique, mais on a un projet qui est très, très diversifié.
Et donc, votre modèle du binge drinking serait équivalent à quoi dans la femme?
C'est toujours un peu difficile à mettre en chiffre parce que la souris, le métabolisme est beaucoup plus élevé. Donc, il faut toujours aller un peu plus haut chez la souris parce qu'ils sont capables de dégrader l'alcool à un rythme qui est 2 à 4 fois plus rapide que l'humain. Parce qu'on sait c'est quoi du binge drinking. Hein? C'est des gens qui prennent puis qui chug ou qui calent très rapidement. Donc, ça équivaut à quelqu'un qui calerait, peut-être une femme qui calerait plusieurs verres de vin, peut-être 5-6 verres de vin très rapidement, par exemple. Okay. Ou une bouteille du vin, c'est plus difficile à imaginer, mais de l'alcool fort, comme des shooters, quelqu'un qui prendrait plusieurs shooters en ligne. Donc, ça équivaut, nous, si on mesure l'alcool dans le sang, sur une période de 4 heures, on a en moyenne 150 mg là, d'alcool dans le sang. Et on se rappelle que le taux pour conduire là, chez l'humain, c'est 0.08. Donc, on n'est pas si loin là, de. Donc, nous, on est à 0.150. Mais bon, c'est des niveaux qui sont élevés. Mais lorsqu'on injecte ça de nos souris ne sont pas passables. Ouais. C'est des souris, ils sont vont un peu dans le coin, ils restent là et après ça, ils partent. Et le but aussi du modèle n'était pas non plus d'aller trop élevé parce que. Par exemple, lorsqu'on regarde nos embryons en mi-gestation, les embryons ont environ 20 % qui ont un défaut morphologique visible. Donc, 80 % des embryons sont corrects. On pourrait aller avec un niveau d'alcool beaucoup plus élevé. On aurait sûrement plus de dommages ou plus de modifications épigénétiques qui se produiraient au niveau de perturbations épigénétiques. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de tuer tous nos embryons. Le but, c'est d'avoir des embryons, une partie qui sont affectés. Donc, on sait que la mère avait un taux d'alcool élevé dans le sang. Donc, mais nous, les embryons qui sont affectés, on a un intérêt, on les étudie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les embryons qui ne sont pas affectés morphologiquement. Parce que lorsqu'on pense au syndrome d'alcoolémie fœtale, on pense aux enfants qui vont naître, par exemple, avec des yeux qui peuvent être un peu. Il y a une caractéristique, les yeux sont un peu plus séparés. Il y en a qui ont des fronts un peu plus plats parce que ça affecte la formation, le cerveau antérieur. Et aussi des problèmes au niveau du retard mental. Bien, ça, c'est. C'est seulement environ 10 % des enfants qui ont ces gros, gros symptômes-là. Les autres enfants, 90 % des enfants, vont avoir aucune caractéristique physique, donc on ne pourra jamais voir. Parfois, c'est des problèmes de mémoire. Parfois, c'est des problèmes d'apprentissage à l'école. Donc, nous, c'est vraiment... Notre focus se fait plus au niveau de ces embryons-là. Donc, les embryons qui ont été exposés à l'alcool, mais qui ne démontrent pas de symptômes physiques. Et là on étudie leur cerveau et on essaie de justement déterminer à partir de perturbations épigénétiques, perturbations transcriptomiques, quel type de neurones, quel type de fonction au niveau du cerveau pourrait être affecté. Et lorsqu'on prend nos souris, on les laisse naître. Ces souris-là ont des problèmes de mémoire, ces souris-là ont des problèmes de sociabilité, même chose que certains de ces enfants-là. Donc, ça démontre que l'impact a un temps pendant la préimplantation, donc pendant le stade 8 cellules, lorsque l'embryon n'est pas encore implanté, l'embryon il flotte encore dans l'utérus. Donc, l'alcool qui est présent dans l'environnement va venir affecter. Et là, c'est ce qui nous reste à déterminer. Est-ce qu'on a un impact direct sur la méthylation d'ADN à ce niveau ou est-ce que c'est un impact sur les modifications d'histone ou c'est un impact sur les facteurs de transcription? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais on sait avec certains résultats qu'on a obtenus, un papier qui est en révision présentement, que certains gènes empruntes, certaines portions de gènes empruntes qui doivent maintenir leur méthylation pendant la vague de reprogrammation, on sait qu'on perd certaines marques de méthylation qui voudraient dire que oui, il y a cette partie-là là, du maintien de la méthylation d'ADN qui pourrait être affectée. Donc ça, c'est une petite partie et là, ça reste à investiguer beaucoup plus en détail.
Et il y a évidemment beaucoup qui se produit entre l'embryon de préimplantation et après le développement du cerveau. Est-ce que vous pensez que les modifications de la méthylation de l'ADN dans l'embryon de préimplantation sont retenues à travers le développement?
Mon hypothèse est, oui, il y a des problèmes de méthylation, que ce soit du maintien de la méthylation qui ne se fait pas. Ça, c'est une petite partie. Avec nos résultats, on voit aussi qu'il y a un problème d'hyperméthylation. Lorsque la vague de reprogrammation reprend, les marques de méthylation doivent être réémises ou réapparaître à travers le génome. Et là, c'est à partir de là que je pense que certaines des modifications, oui, on va suivre une trace, mais c'est aussi un peu un effet domino. Si on a certains gènes qui sont, par exemple, que ce soit dans leur promoteur, que ce soit dans les régions intergéniques, qui sont pour la stabilité, et les rétrotransposants et les enhancers. Si on a certaines régions qui ne sont pas bien mises très tôt dans le développement, donc il y a un peu un effet domino, parce que si on a un gène, par exemple, qui contrôle un gène important pour le développement du cerveau plus tard, qui est affecté, donc lui peut avoir un effet un peu plus tard. Donc, nous, on a regardé mi-gestation à 10,5 jours chez la souris. Et là, on est en train de regarder à différents points dans le temps, parce que pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi l'effet primaire. Donc, est-ce que l'effet primaire est sur la méthylation? Est-ce que c'est un facteur de transcription qui est trop exprimé ou pas assez exprimé? Et là, qui cause un peu un débalancement là, au niveau de la... Parce que chez l'embryon, du jour 3,5, qui est le blastocyste, au jour environ 6,5, les marques de méthylation qui vont être installées là, pour la plupart du génome, vont être constantes par après dans le développement. Pour certains gènes, on va voir des gènes qui vont soit augmenter en méthylation ou diminuer, même chose pour la transcription, dépendamment du type cellulaire. Mais lorsqu'on parle de la méthylation globale, des niveaux globaux, c'est vraiment la période très, très importante. Donc, une autre hypothèse que j'ai, c'est que les cellules du cerveau sont beaucoup plus prônes à des dérèglements. Donc, on a les cellules qui vont grandir et qui vont faire des progéniteurs neuraux. Donc, mon hypothèse est que ces cellules-là, un petit défaut épigénétique, va avoir une plus grande importance, par exemple, qu'une cellule qui va faire une cellule de peau. Donc là, c'est l'importance d'aller voir au niveau des germ layers, des feuillets germinales, est-ce qu'on a des feuillets qui vont plus être affectés. Donc, on regarde, par exemple, si on regarde la même chose au niveau du placenta, parce qu'on regarde, et la placenta sont beaucoup plus affectés au niveau de la méthylation par une exposition prénatale à l'alcool pendant la période préimplantatoire. Mais le placenta est un organe qu'on n'a plus besoin après la naissance. Donc, le placenta, même s'il y a beaucoup plus de perturbations épigénétiques, va être capable de fonctionner. Pour l'instant, on pense qu'il y a certains problèmes au niveau de la fonction. Et là, c'est une étude que l'Isomarie Legault est en train de faire dans le labo, une étude au PhD. Ça, on va regarder ça. Par exemple, c'est un autre exemple que le trophectoderme, qui est le feuillet du blastocyste, qui va donner le placenta. Donc, il y a des perturbations qui vont se causer là, qui vont être reflétées. Et là, on sait, à partir du trophectoderme, qui est une lignée cellulaire qui va directement apporter au niveau du placenta. Donc, si une des expériences à faire, par exemple, ça serait d'isoler ces cellules-là et voir est-ce qu'on voit un impact de méthylation ou est-ce que c'est transcriptomique l'impact ou est-ce que c'est, par exemple, une modification d'histone. Donc, c'est Ariane, tu sais, tu as travaillé avec des petits embryons comme ça. Donc, on n'a pas beaucoup de cellules. Donc, on a encore beaucoup de protocoles à mettre au point là, pour être capable de répondre à cette question.
Donc, si une femme planifie d'avoir un enfant, ce serait bien qu'elle arrête de boire.
Oh, tout à fait. Puis c'est pas juste pour les femmes. Hein, c'est la même chose pour les hommes. Ben oui, Michael Golding, là, qui a l'université au Texas, plusieurs beaux papiers là, qui sont sortis de caractérisation de modifications épigénétiques dans le spermato. Donc, lui, il fait un peu le contraire de nous. Il expose les souris, mais mâles. Et ensuite, il fait caractérisation des spermato, mais caractérisation aussi des embryons par la suite. Donc, il faisait exposition du père. Là, la mère est une wild type que juste contrôle avec aucune exposition. Et là, il voyait des problèmes, des défauts embryonnaires qui se causaient. Donc, c'est la même chose. Souvent, on voit, ta question est bonne, Benjamin, mais tu sais, souvent, on voit les femmes arrêtent de boire, mais les hommes continuent à boire aussi. Mais l'impact peut avoir aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu ou pas pensé avant. Donc, moi, j'ai des amis qu'après nos études ou après d'avoir discuté avec eux, que je sais clairement qu'ils essaient de tomber enceinte et les deux, l'homme et la femme, tous les deux ont arrêté de boire pendant la période préconception.
Oui, je ne savais pas ça, que même chez les hommes, ça pouvait avoir un effet. C'est une information qui est importante à savoir.
Il faut se le dire, ça reste des modèles de souris, mais ces modèles de souris-là reflètent beaucoup, beaucoup des mécanismes. Et tu sais, je pense que justement, à travers ces modèles de souris-là, que ce soit nous au niveau de la préimplantation ou que ce soit, par exemple, Michael Golding avec ses modèles de paternel. Donc, c'est des modèles qui vont faire avancer un peu la mentalité là, du all or nothing d'avant et très important au niveau de la santé publique.
Et au niveau mécanistique, comment est-ce que vous pensez que l'alcool produit des troubles en méthylation de l'ADN ou en modification d'histone?
Un peu comme je disais tantôt, l'alcool peut inhiber l'acide folique, inhiber l'absorption de l'acide folique. Et l'acide folique est important pour la méthylation de l'ADN, important pour les DNMT. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas un mécanisme parfait. Donc, c'est peut-être le main mécanisme, mais ce n'est pas le seul. Comme par exemple, Mélanie dans le labo, Mélanie Breton-Larrivée, nous, on a fait, pour le voir, si est-ce que le problème pourrait être avec ça, Et ce que Mélanie a fait, elle a donné des diètes enrichies en groupe méthyl. Donc, pas juste l'acide folique, mais tous les nutriments qui font partie du One Carbon Metabolism. Donc, on a donné ça aux souris 4 semaines avant. Donc, on donne 4 semaines de cette diète enrichie. Ensuite, les souris femelles sont accouplées avec des mâles et les femelles sont regardées sur cette diète enrichie-là. Et là, on donne notre exposition. Et ces travaux qu'elle est en train de conclure, qu'on est capable de réduire et de presque enlever tous les défauts morphologiques au cerveau des embryons. Donc, on n'est pas capable d'enlever parce qu'on a toujours des... L'alcool aussi cause des retards de croissance. Mm-hmm. Les retards de croissance ne semblent pas être diminués par la diète. Par contre, les problèmes au niveau du développement du cerveau chez l'embryon sont atténués significativement par cette diète qui est donnée. Donc là, on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment l'effet protecteur de la diète qui empêche l'impact de l'alcool? Est-ce que la diète va venir un peu réparer? Donc, encore une fois, c'est des mécanismes qui vont rester à poursuivre, mais au moins, on est capable de dire que cette diète est capable d'enrayer la plupart des problèmes de développement au cerveau à la mi-gestation chez la souris et à la fin de gestation chez la souris.
Et cette diète-là, c'est quoi les aliments qu'il y a dedans?
Ouais, c'est des donneurs de méthyl, c'est par exemple c'est l'acide folique, la bétaïne, vitamine B12. Il y a environ 5-6 composantes. Là. Et les composantes sont augmentées de 2 à 3 fois, 4 fois peut-être les taux. Donc, on ne donne pas des niveaux extrêmes. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui vont boire qui vont avoir un impact nécessairement sur leur enfant. Donc, il va y avoir une portion des embryons qui vont être affectés beaucoup. Il va y avoir une portion qui vont être affectés beaucoup. Et il y en a d'autres. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas affectés, mais ils n'ont pas de signes visibles. Donc, est-ce que la diète, est-ce que la condition physique de la mère peut avoir un impact? Je pense que oui. Et si on regarde aussi, par exemple, les taux d'alcoolémie fœtale dans des régions du monde où est-ce qu'il y a des carences en nutrition, le taux d'alcoolémie fœtale est beaucoup plus élevé. Donc, la nutrition, je pense qu'elle est très importante au niveau de... Est-ce que c'est pour bloquer? Est-ce que ça a un effet protecteur? Est-ce que c'est pour... Est-ce que ça empêche, est-ce que c'est un effet réparateur? Je pense que c'est plus un effet protecteur. Mais bon, c'est encore une fois, on n'a pas fait ce modèle-là. Mais bon, ça reste que le fait d'augmenter justement là, ces donneurs en groupement méthyl, comme je disais, l'acide folique, la bétaïne, une poignée là, qu'on a augmentée dans notre diète, ont vraiment un impact là, sur le développement. Donc, ça serait intéressant de voir, si on enlève tous ces éléments et on met des diètes très, très pauvres en nutriments, donc qui mimiquent un peu soit des famines ou qui mimiquent des gens qui vivent à des endroits dans le monde où est-ce qu'ils ont des carences, est-ce qu'on va avoir un impact plus fort de l'alcool? Mon hypothèse est que oui.
Et outre la boisson, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait affecter la méthylation ou l'épigénétique des embryons?
Il y a des travaux qui sont faits, que ce soit avec la Garrett, Megan Jones au Manitoba travaille là-dessus. C'est sûr que les drogues, oui, les médicaments. Donc, c'est tous des médicaments antidépresseurs. C'est des choses où est-ce qu'on peut avoir un impact, mais encore une fois, est-ce qu'il y a des gens que ça ne fait pas beaucoup d'impact? Probablement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en ont fait plus? Oui, parce que, tu sais, aussi des fois, c'est des double hits. C'est ce qui est dur à étudier chez les humains, c'est des... Oui, on peut étudier une composante, mais il y a toujours les autres composantes, que ce soit le stress, que ce soit la nutrition, que ce soit l'aspect génétique. Donc, l'aspect génétique, il y a des gens... Nous, on ne regarde pas ça du tout, mais il y a des gens qui vont étudier avec des modèles de souris ou en étudiant des populations. Ils vont voir est-ce que certains SNPs, est-ce que certains gènes... L'alcool pourrait avoir un impact plus grand sur le développement. Donc, l'alcoolémie fœtale, c'est un syndrome qui est très difficile à étudier à cause de ça. Que ce soit la même chose pour l'impact de la cigarette ou l'impact du vaping ou l'impact de... Tous les impacts environnementaux sont difficiles à étudier parce qu'ils peuvent avoir des effets très différents à dépendamment du stade où est-ce qu'il y a l'impact. Donc, on peut avoir un impact chronique. Donc, on peut avoir un impact pendant toute la gestation. On peut avoir des impacts qui sont un peu comme nous, un binge avec un endroit. Mais le binge, si tu l'as dans la période très tôt du développement, n'aura pas le même effet que si tu l'as à mi-gestation ou à la fin de la gestation. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on étudie l'alcoolémie fœtale, comme nous, on focalise, on cible une période et on essaie de déterminer l'effet sur cette période. Parce que l'étudier sur tout développement, ça devient extrêmement compliqué. Et par exemple, si on étudie une implication comme, mettons, une consommation chronique, chronique, ça veut dire qu'on a des double hits, on a des multiple hits tout le temps. On va avoir aussi directement l'impact au niveau toxique. Donc, il y a des cellules qui vont mourir au niveau du cerveau. Et donc, ça ne sera pas seulement l'impact au niveau de l'épigénétique. Donc, c'est très complexe. C'est pas comme lorsqu'on a une mutation. Et là, on dit, bien, on va regarder l'impact de cette mutation-là dans un type cellulaire. T'sais, nous, c'est plus compliqué que ça aussi. Là.
Mais évidemment.
C'est vraiment des effets environnementaux. Et c'est pour ça que les effets environnementaux, les études, souvent, sont sur de longues périodes. Et chez l'humain, c'est très difficile d'étudier parce que là, on a l'aspect socio-économique, on a l'aspect des sexes aussi, parce que nous, on voit la différence. On semble avoir des différences mâles-femelles. Parce qu'on sait que la méthylation d'ADN ou certaines modifications épigénétiques, et même le transcriptome, va différer dans certains types cellulaires pendant différentes périodes du développement. Donc, nous, avec notre impact, on voit qu'il semble que les mâles soient plus affectés que les femelles au niveau de l'embryon au jour 10.5. Est-ce que après, on est capable, les mâles vont être capables de se rattraper? C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, avec justement cette méthylation à différents temps. Et là, on pourra comparer, est-ce que les régions qui étaient affectées, est-ce qu'elles ont été réparées, est-ce que ça a empiré, est-ce qu'il y a eu un effet domino? C'est des études qui se poursuivent. Toi, j'ai commencé mon labo, ça fait 6 ans. Ce projet-là a débuté peut-être après la première année, parce que la première année, mon labo était un peu... on n'avait pas d'espace de labo, on faut tout mettre en route. Mais ça fait environ 5 ans qu'on utilise ce modèle-là. Nos premiers papiers sont en train de sortir, parce que ça a été quand même assez long là, à mettre tout en place.
Malheureusement, on va devoir commencer à conclure. Mais juste quelques dernières questions. Est-ce que vous avez, premièrement, des conseils pour des parents qui sont en phase de préconception? Et aussi, plus de notre côté, est-ce que vous avez des conseils pour des étudiants de thèse ou des étudiants postdoctorales?
Pour les personnes qui veulent avoir un enfant, je pense que c'est facile à dire, là, mais c'est la santé, que ce soit l'activité physique, que ce soit la nutrition, et pas boire, pas fumer, consommation de drogue, les trois choses majeures, je dirais. Mais je pense qu'être en bonne santé et une bonne nutrition va être capable de pallier pour certaines choses qui pourraient se produire. Je dis pas que ça va corriger au complet, mais avec nous, ce qu'on a marché à souris, que vraiment juste une diète plus riche est capable. Donc, les parents, s'abstenir pour quelques mois pour les hommes, les femmes, donc pour toute la grossesse et l'allaitement. C'est le meilleur héritage épigénétique pour votre enfant. Et pour les étudiants, mais l'importance de se trouver un bon labo, des bons mentors, des mentors qui vont aussi vous supporter, que ce soit pendant votre période que vous êtes avec eux, mais aussi lorsque vous allez sortir de leur labo. Être dans des labos où est-ce qu'ils vont vous montrer, que ce soit écrire vos demandes de bourse, vous montrer écrire des demandes de fonds, qui vont vous mettre de l'avant, qui vont être vous allez être leurs champions, donc ils vont vous mettre de l'avant, qui vont présenter vos données, vous donner le juste crédit, très important. Être dans un labo où est-ce que vous avez aussi, vous êtes challengé mentalement, mais aussi où est-ce que vous êtes un peu laissé à vous-même dans certains aspects, parce que c'est à vous de prendre votre projet entre vos mains. Donc, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Ça veut dire travailler des heures de fou. Ça veut dire parfois travailler toute seule. Ça veut dire parfois travailler en collaboration avec des gens qu'on ne veut pas nécessairement travailler, mais ça, on le fait pour le reste de notre vie. Mais il faut se rappeler que les périodes de PhD, les périodes de postdoc, là, moi, si je regarde là, mes amis que j'ai maintenant, mes meilleurs amis viennent toutes de ma maîtrise PhD et pendant mon postdoc. Donc, c'est les amis que je me suis fait, c'est encore mes meilleurs amis. On a travaillé les nuits, on a travaillé les week-ends, mais maintenant, à cette heure, on fête les nuits et on va camper le week-end maintenant.
Merci beaucoup pour cette entrevue-là. J'ai vraiment appris beaucoup.
Merci à vous deux. C'était super le fun. C'était ma première fois que je faisais ça, donc je suis super, c'était super le fun.
Non, c'était vraiment bien. Je me sens inspirée maintenant.
Ouais, moi aussi.
Vous êtes vraiment passionné de votre travail. C'est bien, c'est beau à voir.
Ouais. Non, merci. Mais tu sais aussi, la passion, ça vient aussi avec les étudiants qui sont dans nos labos. C'est eux qui produisent tous les résultats. Hein. Moi, je suis ici, j'écris des papiers, j'écris des grants et j'essaie de motiver les troupes. Là. Je suis un peu comme une cheerleader, mais la motivation vient beaucoup, beaucoup du labo et des collaborateurs et des collègues. Hein. C'est super important là, d'avoir pas seulement des bons étudiants, mais des étudiants avec qui aiment travailler avec toi, avec moi, et des collègues là, avec qui on peut collaborer et un peu se sentir, on est une grande famille, hein. C'est toujours ça que je dis.
Merci d'avoir écouté Parlons épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web pour plus d'informations sur l'épigénétique. Soyez présents pour la dernière entrevue de la saison avec la docteure Caroline Brown.